Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui a déjà été annoncée ce matin. Seigneur, je te prie pour que tu trouves une entrée dans chacun de nos cœurs ce matin et que nous puissions partir étant remplis de toi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas. Seigneur, tu as donné ton esprit afin que nous soyons sous un esprit vivifiant jour après jour. Que ton nom soit béni. Amen. Alors, un des plus grands dangers qui guette le croyant, c'est la torpeur. Vous savez ce que c'est que la torpeur? La torpeur, c'est ce sentiment un peu, on est un peu vaseux, n'est-ce pas? Lorsqu'on a fait par exemple une longue sieste, un après-midi d'été, lorsqu'il fait chaud, et qu'on se réveille et qu'on n'arrive pas vraiment à se réveiller, et on est là entre le sommeil et l'éveil, et on a de la peine à tout faire, on a de la peine à se déplacer, on a de la peine à, je sais pas, allumer son ordinateur, on a de la peine à tout faire. Tout est difficile. Le drame dans la vie chrétienne, c'est lorsqu'on devient comme ça dans notre vie spirituelle. Et lorsque l'Église est composée de gens dans la torpeur, alors on a une Église endormie ou à demi endormie. Lorsqu'on est comme ça, la vie chrétienne est quasi inopérante et elle ne produit pas beaucoup de fruits, si ce n'est aucun. Et on a vite fait alors de s'arrêter, de stagner dans notre cheminement. Et bien évidemment, une vie stagnante, une vie spirituelle stagnante n'a pas d'intérêt pour le chrétien et en même temps, elle ne glorifie absolument pas Dieu auprès des autres hommes. Alors, j'aimerais qu'on voie un peu au travers de la parabole du semeur, les différents terrains qui reçoivent la parole de Dieu. Et puis après, si on a encore le temps, développer un tout petit peu l'aspect du dernier terrain qui est le terrain fertile et ce que ça signifie que d'avoir un cœur honnête et bon. Voilà, donc on va prendre la parabole du semeur dans Luc, puisque vous savez que Matthieu, Marc et Luc donnent cette parabole. La parabole du semeur, c'est la première parabole, c'est la parabole d'introduction d'un ensemble de paraboles qu'on appelle les paraboles du royaume. On va la commencer au verset 4 et je vais lire jusqu'au verset 21. Chapitre 8, pardon. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il le semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !» Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder, à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Donc on a dans cette parabole quatre classes d'auditeurs. On a donc parmi ces auditeurs, il y a trois classes qui ont des obstacles et un où il n'y a pas d'obstacle. Jésus, dans l'explication, donne trois problèmes et une clé d'entrée, en quelque sorte. Donc on va les passer un peu en revue et voir ce qu'on peut en dire déjà dans un premier temps. J'essaie d'arriver au bout, je suis un petit peu malade, mais ça va aller. Dans le premier cas, Jésus donne une explication. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu, ceux qui sont le long du chemin. Ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il a semé comme ça? Finalement, pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste semé dans la bonne terre? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il aille mettre ses graines sur le chemin? Alors, si vous avez été en Israël, et je sais que vous n'avez pas été, pour certains, pour beaucoup d'entre vous, mais si vous voyez les champs, là-bas, même en Galilée, on n'a pas affaire à des champs bien définis, avec de belles frontières, comme nous les avons ici, et on ne se met pas avec des machines, on se met à la volée. Alors, moi j'ai eu l'occasion de faire ça, donc se met tout un champ à la volée. Suffit d'un peu de vent et il suffit que le geste soit un tout petit peu plus large et ce qui devait rester dans le champ va juste à côté. C'est inévitable. Ensuite, les champs là-bas n'ont pas 100% de terre fertile. Il y a de la terre fertile. Au milieu, vous avez des rochers et donc la frontière entre le chemin et le champ lui-même n'est pas réellement définie. Ce qui explique, et vraisemblablement c'était le contexte physique dans lequel était installé Jésus lorsqu'il prêchait, ils étaient sans doute au milieu des champs, et donc je pense qu'il a dû, peut-être, il faudrait vérifier si c'était la période de poussée du blé, mais en tout cas, on voit nettement, lorsque vous observez la nature, on voit nettement dans un champ de blé, les endroits où le blé a de la peine à pousser, et vous avez sans doute déjà remarqué que lorsque, par exemple, vous semez du gazon, ce qui prend le dessus sur le gazon, rapidement, ce sont les mauvaises herbes, n'est-ce pas? Le gazon pousse, mais si vous voyez ma pelouse à l'heure d'aujourd'hui, c'est une pelouse de mauvaises herbes, c'est pas une pelouse de gazon. Et donc c'est une sorte d'utilisation du naturel autour de lui que Jésus a fait pour que les personnes puissent bien comprendre, donc pour illustrer son propos. Il a juste utilisé les choses qui étaient devant lui et connues de tous. Et donc il leur dit que le grain qui tombe là, sur cette terre, cette terre correspond à l'auditeur inattentif, celui qui est insouciant, qui est en danger, confronté à un danger qui vient de l'extérieur. Hein, la parole de Dieu parle des ténèbres du dehors. Et c'est le malin qui vient. Lorsque la parole est donnée, on peut être assis sur sa chaise et être insouciant par rapport à ce qui se passe. Penser à autre chose. Et là où la parole devrait prendre racine, le malin vient. Et là aussi, si vous avez semé votre gazon, vous voyez que les oiseaux arrivent. Et si vous ne mettez pas votre chat au milieu de la pelouse, eh bien, vous allez avoir vos graines qui vont partir dans le gosier des oiseaux, rapidement. Ils sont très friands de ces graines. Et donc, le malin vient comme ces oiseaux et retire la parole, l'enlève. De sorte que la personne n'a plus aucune conscience de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, et ne peut pas croire en Dieu. Il y a d'autres auditeurs, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Alors c'est pas nécessairement un rocher, ça peut être un endroit avec des cailloux, avec plus de pierrailles que de terre. Et donc, la racine, là, n'arrive pas à trouver son chemin. Et elle repose sur presque rien. Et donc, ça prend rapidement. Ils reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. On peut dire oui au Seigneur. On peut dire oui, ce que tu dis, ça me plaît. Les réponses aux prières, les bénédictions, ça me plaît. Et la musique dans l'église, elle est bien. Ça me plaît. Et moi, j'étais dans une église où il y avait beaucoup de délivrance. Et lorsque je suis entré là-bas, on m'a dit « Oh, ici, c'est bien. Il y a des choses qui se passent. » En effet, il y avait des choses qui se passaient. Moi, ça m'a pas plu. Mais lui, ça lui plaisait. Il y a des choses qui se passent. Mais, dans le fond, le cœur est dur. Et quand on arrive alors aux vérités fondamentales, lorsqu'on arrive à dire que la vie chrétienne, ça a un coût, que la vie chrétienne, ce n'est pas un chemin tranquille, alors il commence à être moins intéressé. Et lorsqu'arrive la tribulation, lorsqu'arrive l'épreuve, ah, le Seigneur ne m'aime pas. Ah, il m'a abandonné. Alors, je vais l'abandonner aussi. Si c'est comme ça, eh bien, je ne reste pas. Et le frère, là-bas, il a dit quelque chose de moi, sur moi. Ah, il m'aime pas. Oh. Et celui-ci, je l'ai vu lorsque je suis rentré la fois dernière, il a rigolé. N'est-ce pas? On croit tant que ça nous arrange. Mais dès qu'on vit la réalité de la vie chrétienne, alors on se dit, mais à quoi bon tout cela? Et s'il arrivait que ce soit la persécution, et cela arrivera, l'Église sera épurée de toutes ces personnes, de tous ces cœurs qui croient pour un temps parce que ça leur plaît. Le club de l'Église évangélique d'Hasbrook leur plaît bien. Mais le jour viendra la tribulation. Alors, ils ne tiendront pas. Et je vise personne, évidemment, et je nous inclus tous en même temps. Sur quoi est fondée, sur quoi a été fondée la parole? Sur quel terrain? N'est-ce pas, c'est ce qui s'est produit, je l'ai aussi dit déjà plusieurs fois, en Roumanie, lorsque Ceaușescu est arrivé au pouvoir, l'Église s'est scindée en deux. Les assemblées se sont divisées en deux lorsque Ceaușescu est arrivé au pouvoir. Il y avait une Église en prison et une autre qui continuait à faire son théâtre tous les dimanches. C'est ça qui s'est passé. Une troisième catégorie, ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Il y a un effet dans la vie chrétienne, c'est que lorsque les vies étaient toutes sens dessus-dessous et qu'on est arrivé au Seigneur, on a mis de l'ordre dans sa vie. On a réglé certaines choses. On a recommencé à étudier peut-être. La vie qui était Caïn, Caïn est devenue droite. On n'était pas marié, on s'est marié, on a eu des enfants, on acquiert une respectabilité, une dignité. Et on voit le fruit qui commence à poindre. On voit qu'on n'est plus la même, comment dire, le même rebut qu'on était. Le Seigneur nous a formés en quelque sorte, nous a amenés à être une autre personne. Et toutes ces qualités qui nous sont arrivées, toutes ces compétences qui nous sont arrivées, sont malheureusement parfois mal utilisés par ceux qui les ont reçus. Et plutôt que de les utiliser pour la gloire de Dieu, ils les utilisent pour eux-mêmes. Comment dire ? Les églises, ce sont des grands réseaux, n'est-ce pas ? Un réseau, potentiellement, c'est de l'argent. Parce que quand on en connaît un qui peut nous faire connaître plein d'autres, c'est de l'argent. C'est comme ça que les gens réussissent quand ils font des affaires. C'est qu'ils s'installent, ils connaissent les têtes de réseau et ils ont toute une clientèle potentielle. Il y a des gens qui ont créé leur entreprise comme ça et qui vivent sur la communauté des chrétiens. Il y a des œuvres sociales qui se créent, mais les gens ne sont pas à genoux à prier, demander que le Seigneur finance. Ils vivent sur le compte du réseau. Alors, il y a cette bonne personne là-bas qui a fait cette bonne chose là-bas. Vous devez tous donner votre bon argent. N'est-ce pas? Une vie chrétienne est censée glorifier Dieu. Pas les œuvres que l'on fait, y compris lorsqu'on y met Dieu. Nous sommes ouvriers avec Christ, pas pour Christ. Alors, ces choses-là sont des pièges que Satan met sur notre route. Ce sont des possibilités qui s'ouvrent à nous, qui s'offrent à nous, qui n'existaient pas avant. Le réveil de Wesley en Angleterre a périclité parce que les gens ont trouvé une aisance dans leur vie qu'ils n'avaient pas à l'époque. La deuxième et troisième génération s'est trouvée avec des biens et avec une opulence qu'ils n'avaient pas lorsque le réveil est intervenu. Et ceux qui ont réfléchi sur le pourquoi de l'arrêt du réveil pensent que c'était à cause de l'amélioration, de la qualité de vie, que le réveil a périclité. Mais à l'échelle de nos propres vies, de nos vies individuelles, est-ce que les choses doivent se passer comme cela? Est-ce qu'on doit, alors que le Seigneur nous bénit, y compris spirituellement, est-ce qu'on doit utiliser ce que le Seigneur nous donne pour notre propre bien, nos propres besoins, notre propre image devant les autres, ou est-ce que nous devons tout confier au Seigneur pour qu'il l'utilise et qu'il y ait du fruit qui arrive à maturité? Parce que le problème est là, c'est que tout se passait bien. Les mauvaises herbes sont arrivées, et ce sont toutes ces choses que je viens de décrire, et elles ont étouffé le fruit avant qu'il arrive à maturité. Est-ce que vous comprenez? Derrière tout cela, nous avons nos prières, nous avons nos demandes au Seigneur. Seigneur, je ne suis pas efficace. Seigneur, je ne porte pas beaucoup de fruits. Oui, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Comment t'es-tu occupé de cela? Il y a la quatrième catégorie. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance ou avec patience. La semence tombe dans le bon terrain. Et laissez-moi vous dire, je crois que le bon terrain, c'est quand même le terrain le plus vaste. Je pense pas que le terrain le plus vaste soit le rocher ou le chemin. Un paysan qui sèmerait tout son grain sur le roc serait vraiment stupide. Je pense que le terrain, de façon générale, est bon. La bonne terre, c'est une terre qui a tous les nutriments en elle, qui a une qualité et une profondeur suffisantes pour que le grain se sente à l'aise et pour qu'il puisse plonger ses racines profondément, pomper les nutriments et grandir. Jésus dit que ce terrain correspond à un cœur honnête et bon. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Si nous portons du bon fruit, nous glorifions Dieu, et nos vies ne sont pas stagnantes. Si nous peinons à porter du fruit, est-ce que c'est parce que le terrain n'est pas bon, ou parce que, je sais pas, il y a eu un déplacement, une sorte de tremblement de terre qui a fait que nous avons glissé sur un rocher ou sous les ronces? Et qu'est-ce que ça signifie que d'avoir un cœur honnête, un cœur bon et honnête? Est-ce que Jésus pensait qu'il fallait développer un idéal de perfection morale ou sociale? C'était pas ça, Arlette? Non?
Non, c'était pas ça. Je voyais Arlette qui fait une bonne chose, c'est pas ça.
C'est ce qu'on pensait au XVIIe siècle, n'est-ce pas? Il y avait je me tourne vers Esther parce qu'elle a fait ça en philo, sans doute, le concept de l'honnête homme. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il s'agit d'un comportement adapté à la vie de l'Église? Alors, si je vous posais la question, mais c'est quoi pour vous? L'homme bon, selon Dieu? L'homme honnête? Vous me direz, ben, peut-être c'est celui qui reconnaît Jésus comme fils de Dieu. Et là, on vous répond, le malin aussi connaît Jésus, et il tremble. Alors vous me direz peut-être, non mais c'est celui qui reconnaît qu'il a péché. Alors je vous dirais que, tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, beaucoup d'hommes ont dit, j'ai péché, et sont vraisemblablement aujourd'hui en enfer. Ça a été le cas de Pharaon. J'ai péché. Ça a été le cas de Balaam. Ça a été le cas de Judas Iscariote. Ils ont reconnu qu'ils avaient péché. Et pourtant, ça n'a rien changé à leur vie. Il y en a d'autres, il y en a au moins une dizaine. Et il y en avait un autre, le roi David. Qu'est-ce qui fait que les uns ont péché et ont été désapprouvés par Dieu et qu'un autre a péché? Et Dieu a pu dire de lui, quand il s'est adressé à Salomon, il lui a dit, et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, alors qu'il avait été meurtrier et adultère. Le témoignage de Dieu concernant David, c'est la sincérité de cœur et la droiture. C'est que David s'est repenti. C'est que David est passé par une repentance réelle, avec la contrition dans le cœur, où il était d'accord de mourir immédiatement, où il avait ce... Vous savez, parfois on se dit, mais plutôt mourir que pécher. Je crois que David était comme ça, finalement. Il avait péché, c'est indubitable. Et ce qu'il a fait est horrible. Mais Dieu a reconnu que sa repentance était sincère. Et n'est-ce pas? C'est pas parce que on se met dans un coin d'une église et qu'on prie la prière de repentance qu'on est sauvé. C'est pas pour ça. C'est parce que dans le cœur, il y a une sincérité de cœur que Dieu peut lire et qu'il peut là voir la vérité du cœur de l'homme et dire cet homme-là est fondamentalement bon, il est fondamentalement honnête et il me plaît. Et quand il se repent, ce qu'il dit, il le pense vraiment. N'est-ce pas? L'honnêteté, selon Dieu, est un défi pour la logique humaine. Dans les évangiles, on a le récit de Zachée. Vous l'avez sans doute en tête. Zachée était un homme de petite taille. Et lorsque Jésus se promenait là, il s'est dit, mais je veux le voir, je veux le voir. Et donc il trouve un arbre, il grimpe. Et là, il voit Jésus. Il devait être émerveillé. Rendez-vous compte, le chef des publicains, pris à grimper sur un arbre pour aller voir Jésus. C'était quelqu'un, Zachée. C'était pas un vulgaire douanier, c'était le chef des publicains. C'était un homme qui était respecté et dont on pouvait avoir peur même. Il grimpe sur un arbre, je veux voir Jésus. Et par hasard, Jésus passe sous... Vous comprenez ce que ça veut dire, par hasard, n'est-ce pas? Jésus passe sous son arbre et dit, Zachée, descends. Et il lui dit, je veux aller manger avec toi, chez toi. Et ils se parlent là, sans doute. Ils se disent des choses. Et Zachée comprend. Et Zachée dit, Seigneur, voici, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Est-ce que cette idée-là vous a simplement traversé l'esprit lorsque vous vous êtes converti? Je ne vous demande même pas si vous avez décidé de le faire. Est-ce que seulement vous y avez pensé? Vous me direz, il n'y a pas de raison, moi je ne suis pas riche comme Zachée, n'est-ce pas? Moi je ne sais pas ce que vous avez sur vos comptes en banque. D'ailleurs, est-ce que je pourrais les voir? Ah non! Une des caractéristiques d'un honnête homme, selon la parole de Dieu, c'est la transparence, c'est la lumière. Oui, c'est pas pour ça que vous devez montrer votre compte en banque, je sais. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il lui dit encore, je vais faire une enquête. Et si je m'aperçois que j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui donnerai 4 fois. Je lui rendrai, donc si je lui ai pris de l'argent que je ne devais pas lui prendre, je lui rendrai sa somme
au quadruple.
Est-ce que ça vous a seulement traversé l'esprit que de vous dire que vous aviez fait du tort à quelqu'un et que vous devez au moins lui rendre la somme ou réparer ce pourquoi il a été lésé? Frères et sœurs, si ça, ça ne vous a pas traversé l'esprit, alors le terrain dans lequel la parole est tombée n'est pas adéquat. Parce que ça, c'est un homme avant la réception du Saint-Esprit, en présence de Jésus, je vous l'accorde, qui prend ces décisions-là. Notre vie ne peut être que stagnante et ne glorifie pas Dieu si nous ne sommes pas passés par ces étapes où nous devons restituer. Restituer là où nous avons fait du tort. Ça peut être matériel, mais ça peut aussi être psychologique. Lorsqu'un jeune homme promet d'épouser une jeune fille, et que du jour au lendemain, il la laisse tomber pour aller en épouser une autre, il y a un dommage extrêmement important qui a été causé. Et il faut réparer ça. Ça n'est pas qu'une histoire d'argent. Ce sont aussi des histoires de relations entre les personnes. Est-ce qu'on a rendu quelqu'un malade à cause de la façon dont on l'a traité? Alors nous lui sommes redevables de quelque chose. N'est-ce pas? La nouvelle alliance nous emmène dans des dimensions bien différentes que l'ancienne alliance. Et ce que Jésus nous demande est impossible si le Saint-Esprit ne vient pas pour nous porter dans ces situations qui sont difficiles parfois. Je concède que c'est difficile parfois de retourner voir une personne à qui on a fait du tort. Mais le Seigneur le demande pour que vous soyez en règle avec lui, pour que vous soyez en règle avec la personne et pour que votre vie spirituelle puisse continuer à se développer et à progresser. Je pense que Zachée est le type même de l'honnête homme dans la parole de Dieu. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a écouté la parole, il l'a acceptée, il l'a retenue en lui, il l'a mise en pratique. Et il a persévéré dans la recherche du bien. N'est-ce pas? Ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retienne et porte du fruit avec persévérance. Je ne sais pas si vous réalisez comment il se fait que vous soyez là tous et que ce bâtiment est là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a eu des hommes qui sont venus dans cette ville 5 siècles après la Réforme. Et là, je pense à Pierre Huller, à M. Cradock, à Keith et Janet. Des gens qui sont venus et qui ont donné la parole avec persévérance. Et c'est pour ça que tout ça existe aujourd'hui. Parce qu'ils se sont donnés avec persévérance. Et le fruit est sorti de terre. Vous pouvez rendre gloire à Dieu. pour chacune de ces personnes et leurs épouses aussi. Les Juifs de Béret, vous connaissez les Juifs de Béret, ceux qui observaient la parole, lorsqu'on leur disait quelque chose, ils allaient voir qu'est-ce qu'il a dit. Et ils allaient vérifier. Et il dit, ils étaient nombreux à avoir été sauvés. C'était des hommes qui savaient écouter, qui étaient honnêtes dans leur recherche, n'est-ce pas? Il disait pas juste oui comme ça, et c'est normal. On peut pas rentrer dans une église et écouter un message et dire ah, sauf si le Saint-Esprit nous convainc réellement de péché, de justice et de jugement. Mais c'est normal. C'est normal de vérifier ce qui a été dit. Et ils l'ont fait. Et ça a été noté comme étant un sentiment noble. Ces Juifs avaient un sentiment noble. Oh là là. Je vais passer. Alors, un honnête homme. Une femme honnête aussi, n'est-ce pas? C'est homme générique. Vous m'excusez, mais c'est trop long à dire. Mais je pense à vous également. C'est celui qui agit à la lumière. C'est quelqu'un qui n'a rien à cacher. Un jour, je vais chez quelqu'un et je le félicitais sur sa maison et tout cela. Et il me dit, ça te plaît? Je dis oui. Il me dit, écoute, tout est à toi. Tu peux l'avoir. J'étais surpris, il me dit, mais tu sais, j'ai appris à savoir que tout ce que j'avais, c'était le Seigneur qui me l'avait donné. Et que si demain, il souhaitait te le donner à toi, eh bien, il était libre de le faire. C'était un honnête homme. N'est-ce pas? C'est pas l'honnêteté comme on la comprend aujourd'hui. Celui qui fait des choses honnêtes. C'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça. Est-ce que je peux venir le jour où vous êtes en conversation avec quelqu'un? Vous parlez juste avec une personne? Est-ce que je peux venir m'incruster et réaliser que vous ne dites que du bien de vos frères et sœurs, ou de qui que ce soit d'autre? Est-ce que je peux venir voir sur votre ordinateur quels sont les sites que vous êtes allé consulter? Est-ce qu'il n'y a rien de répréhensible? Est-ce que je peux aller dans votre bibliothèque? Parcourir les livres que vous avez achetés et réaliser que dans tout cela, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que si je venais comme ça à l'improviste, ceux qui ont fait l'armée savent ce que ça veut dire que les visites à l'improviste, n'est-ce pas? Parce que vous avez le sous-officier qui vient, qui ouvre votre armoire et qui regarde, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on sort tout. Est-ce que je peux venir faire une telle visite et réaliser que tout est parfait? Il n'y a rien à redire. Tout est à la lumière. Il n'y a rien de caché. Dieu est appelé le Père des Lumières. Dans Jacques, je crois. Le croyant est appelé à agir selon la vérité. Marchons honnêtement comme en plein jour dans Romains 13. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que les uns et les autres, on peut faire ça? Ou est-ce que tu dis, non, 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 tu peux pas rentrer là? Non, mais c'est pas rangé. Mais en fait, c'est pas que c'est pas rangé. C'est qu'on veut pas que tu vois ce qu'il y a derrière la porte. Mais si moi, je peux pas le voir, Jésus peut le voir. On peut rien lui cacher. Alors pourquoi est-ce qu'on vit comme si Jésus ne pouvait pas voir l'invisible? Un homme honnête, une femme honnête, c'est quelqu'un qui persévère. Et quelqu'un qui persévère dans la recherche de ce qui est bon, agréable et parfait. Zachée n'a pas hésité à rechercher qui ou à écouter les plaintes peut-être de ceux à qui il avait, ceux qu'il avait trompés, ceux qu'il avait volés peut-être. Est-ce que nous, nous avons pris le parti de rechercher ce qui peut être un problème? On me dit toujours, l'introspection, ça n'est pas bien. Oui, dans une certaine mesure, il y a des choses où il ne faut pas aller trop loin parce qu'on n'est pas... On ne sait pas nécessairement comment agir, surtout lorsqu'on parle à d'autres personnes. Mais il y a quand même une forme de questionnement personnel qu'il faut pratiquer. Et tant que le Seigneur vous met à cœur cette chose, cette situation, cette personne, l'homme honnête le prend en considération parce qu'il a un cœur sincère. Et activement, il va partir à la recherche des personnes qu'il a lésées. Activement, il va réparer les situations. Recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 9. Il y a cette qualité de persévérance, cette volonté de continuer, même si tout est difficile. Cette volonté, et ça, c'est pas une qualité humaine. Moi, je ne suis pas persévérant naturellement. Je suis un peureux. Je ne suis pas courageux. Je ne suis pas persévérant. Je suis très timide. Mais ce ne sont pas nos qualités que le Seigneur attend. C'est pas qu'on vienne avec notre force. C'est qu'il puisse trouver en nous la possibilité, lui, d'agir et de nous faire faire les choses qu'on pensait ne jamais être capable de faire. La persévérance, c'est la foi qui nous la donne. C'est parce que nous avons foi en Dieu et en sa capacité que nous savons que nous pouvons continuer. Même de nous lever le matin. Le plus dur dans une vie, c'est pas de porter un ministère fantastique, c'est de se lever tous les matins et de faire des choses anodines. C'est ça le plus dur dans la vie. Et c'est là que la foi doit nous porter pour que nous puissions continuer et tous les jours nous remettre au travail. Un homme honnête, c'est, Jacques dit, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Imaginez Zachée. Ah, Jésus, viens, 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 viens manger chez moi. Voilà, voilà. Alors, la recette, c'est ça. Et on a, voilà. Et alors, mon travail, eh bien, écoute, tous les jours, je fais ça, ça, et oui, les enfants, ça va, la femme, ça va, et toi, ça va. Oui, alors moi, tu sais, et je fais du cheval, et Jésus s'en va, et il n'a pas pu dire un mot. L'homme honnête, c'est celui qui laisse parler le Seigneur. C'est celui qui est à l'écoute. C'est celui qui peut entendre Jésus l'enseigner et lui dire « Va, rétablis la situation là-bas. » C'est un homme qui écoute plutôt que de parler. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. L'homme honnête est un modèle. Il a la capacité d'écouter. Et c'est ça qui le rend attractif au monde. C'est lorsque on sait écouter le monde, et Jésus savait écouter le cœur de l'homme, alors le monde est attiré. C'est pas en le martelant de vérité, en disant ceci, en disant cela. Tu connais la vérité, c'est bien, mais tu me l'as dit et je la comprends pas. Savoir écouter. Je vais m'arrêter là, j'avais encore 2-3 points. J'ai juste, en tout cas, l'homme honnête, ce cœur honnête et bon, c'est la synthèse de toutes ces caractéristiques. Et je la résumerai en un seul verset, celui de 1 Jean 2,5. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Cette prédication, j'aurais pu juste vous dire, l'homme honnête, c'est celui qui a Christ en lui et qui le laisse s'exprimer. Certes, j'aurais pu le dire comme ça. Mais je crois qu'il est bon que nous voyions, que nous passions par les caractéristiques pour voir si nous-mêmes, nous répondons à cela. Juste pas dans un grand ensemble général, mais si dans nos cœurs nous pouvons nous dire, mais oui, je suis dans la bonne terre. La parole, je la reçois dans la bonne terre. Et je peux continuer à marcher. Ou alors non, je suis bloqué là. Il faut que quelque chose change. Voilà. Seigneur, nous voulons avoir un seul rêve, c'est celui de ressembler à ta perfection. Nous voulons, Seigneur, que ce rêve se devienne une réalité jour après jour. Seigneur, que tu puisses nous montrer, mettre le doigt, Seigneur, sur les choses que tu veux arranger dans nos vies, les choses que tu veux pardonner dans nos vies. La force et le courage que tu veux nous donner dans certaines circonstances. Ce que tu veux nous voir accomplir pour la gloire de ton nom. Seigneur, fais de nous des hommes honnêtes et des femmes honnêtes qui peuvent progresser et porter du fruit pour la vie éternelle. Seigneur, que nous ne soyons pas figés, stagnés dans la torpeur, mais que nous puissions être actifs et dynamique, Seigneur, pour la gloire de Dieu et l'avancée du royaume. Dans le nom de Jésus. Amen.